Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Bonjour les amis, alors notre partenaire de ce podcast est aujourd'hui l'Institut de naturopathie humaniste qui a été fondé par Odile Chabriac qui est praticienne depuis plus de 20 ans. Et cette école de naturopathie à taille humaine est destinée à former des naturopathes, des professionnels d'excellence. Les études, qui durent entre 9 mois et 2 ans selon les cursus, se font en petits groupes, en présentiel et ou en distanciel, ce qui est très pratique et très facile, l'accent étant mis sur la pratique et l'entraînement constant à la clinique. Une personne est dédiée à la supervision de chaque élève. Vous souhaitez compléter une formation de santé ou bien devenir naturopathe? Retrouvez vite cette formation de naturopathie conjuguant excellence et bienveillance sur le site de l'Institut de naturopathie humaniste www.inh.life. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Et si la chance souriait vraiment aux audacieux? Si ce n'était pas qu'une question de milieu social, de lieu de naissance, de nom, d'éducation ou de culture? Pour mon invité, la réussite est avant tout une quête de l'épanouissement. C'est un chemin jonché de haut et de bas que l'on construit à force de persévérance, c'est avoir des rêves, des aspirations et des convictions, et tout faire pour les vivre pleinement. Entrepreneur, prenant la révolution du partage, philanthrope connu et reconnu, mentor de la jeunesse, il a lancé les podcasts Contre toute attente et puis Pause, dans lequel il sonde les âmes de gens ordinaires au parcours extraordinaire. Et dans son nouveau livre, Pause pour une vie alignée aux éditions Fayard, il évoque cette possibilité que nous avons tous avec nos failles et nos atouts, de vivre en adéquation avec notre vérité, avec ce que nous pensons et espérons pour trouver notre voie. Je suis ravie de recevoir dans Métamorphose, pour la première fois, Alexandre Mars. Bonjour Alexandre.
Salut Anne.
Alors est-ce qu'on va prendre une petite pause, tiens, tous les deux? Évidemment, tout le monde doit te faire la même blague.
Non, on me l'a posé cette question en effet, mais oui, j'espère qu'on va prendre cette pause, et puis toi et moi on va la prendre, mais c'est tes auditrices et des auditeurs qui ont cette chance de, avec toi régulièrement de faire une pause, et moi je l'ai fait hein, avec toi d'ailleurs, et souvent tu dis, mais est-ce que j'ai vraiment le temps de prendre une heure? Mais oui, vous avez le temps de prendre une heure, parce que cette heure-là que vous pensez parfois perdre, ben, ça vous va regagner mais des jours et des jours et des jours. Eh bien oui, il faut prendre des pauses parce que tout s'accélère et parfois il faut dire stop, j'apprends, j'écoute.
C'est ça, alors du coup je me suis demandé, tu as appelé ton livre Pause, hein, comme ton podcast éponyme, je le disais en introduction. Quel est aujourd'hui ton rapport au temps qui passe? Tu dis dans ton livre, vite prenons une pause, nous n'avons pas de temps à perdre. J'adore parce que c'est un oxymore en fait.
C'est un oxymore, exactement. Les gens pensent tout le temps que dans le monde dans lequel nous vivons, qui s'accélère, on n'a pas le temps même de parler. Tu vois, là, toi et moi, on parle doucement, on réfléchit, on discute, et on n'est pas en train d'aller très vite, trop vite. Et c'est bien ce qui est difficile dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on est très souvent ce petit hamster dans cette grande roue, et parfois, on ne se pose pas ces questions-là. Et cette question qui est essentielle, qui nous unit, et qui unit certainement les gens qui t'écoutent tout le temps, c'est pourquoi? Pourquoi et comment être épanoui? Et là, j'ai bien parlé d'épanouissement, pas de bonheur. Je rencontre des gens qui sont absolument pas épanouis et qui arrivent, au moment présent, à atteindre un certain bonheur. Mais ce bonheur est à chaque fois, si tu n'es pas épanoui, quelque chose qui va partir, qui va quitter ton moment présent. Et c'est ça la plus grande difficulté qui est la nôtre, c'est cet épanouissement. Cet épanouissement, la différence, c'est que cet épanouissement va t'accompagner sur la durée.
On va revenir évidemment longuement sur ces deux notions, le bonheur, l'épanouissement, l'alignement. Avant ça, peut-être revenir aussi sur ce que tu dis dans ton livre, La rencontre avec soi, c'est le projet d'une vie. Et c'est pour ça que tu dis qu'on n'a pas de temps à perdre, autant déclencher tout de suite le processus. C'est important, ça, de, à un moment donné, de réaliser que cette vie passe. Peut-être qu'on le réalise un peu plus quand on a nos âges, puisqu'on est à peu près de la même génération, je pense, Alexandre, que quand on est jeune, finalement. Toi qui côtoies aussi beaucoup de jeunes.
C'est une très bonne question. J'aurais peut-être pu te répondre par l'affirmatif il y a quelques temps de ça. Et en fait, je me rends compte... Alors peut-être que la crise Covid a changé aussi certaines mentalités. J'ai l'impression que ces sujets-là sont des sujets qui sont transgénérationnels, en fait. C'est plus du tout... OK, plus on s'approche... C'est ce qu'on pourrait dire, on pourrait penser au départ, plus on s'approche de la fin, et tout en sachant qu'on ne la connaît pas, cette fin-là, plus on a envie de se poser ces questions, qui sont parfois des questions métaphysiques. Moi, ce que je peux voir au quotidien, et c'est les retours que j'ai des gens qui lisent ce livre. J'étais, par exemple, hier à une signature dans une librairie dans le sud de la France, et la libraire a 26 ans, et ce qu'elle m'a exprimé aurait pu être exprimé par quelqu'un qui en avait 55. Et c'était vraiment, j'ai décidé quelque chose, les gens m'ont dit que je ne pourrais pas le faire, que je n'avais pas forcément ni l'âge, ni déjà l'expérience. Et pourtant, je l'ai fait. Et c'est ce type de sujet-là, c'est un sujet qui est partagé par tellement de gens. C'est où aller? Comment y aller? Pourquoi y aller? Et c'est ce que moi je définis comme l'alignement d'une vie. Parce que c'est à quel moment, et parfois ça peut être à 25, parfois c'est 70, parfois c'est jamais, tu arrives à aligner trois choses essentielles dans nos vies. Ce à quoi nous pouvons penser, quelles sont nos réelles valeurs, et comment nous les mettons en application, c'est quels sont nos actes. Et le jour où tu arrives, et c'est extrêmement compliqué, je ne dis pas du tout que c'est quelque chose de simple, et toi Anne, tu le sais aussi bien que moi, qu'est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que c'est compliqué d'arriver à cet alignement? Mais qui a dit que la chose était simple et qui a dit que la vie était simple?
Quand j'ai vu, Alexandre, le titre de ton livre, quand il est arrivé chez moi pour que je travaille sur cette interview, je me suis vraiment posé la question de l'alignement. Parce que dans les milieux psy ou du développement personnel, c'est un mot qui est souvent employé à telle personne, elle est alignée, cette personne, elle n'est pas alignée. Et il peut y avoir un jugement derrière ça, de dire, bah dis donc, avec tout le travail qu'il a fait sur lui, il n'est pas tellement aligné, en fait. Et ça me rappelle des discussions que j'ai souvent avec quelqu'un que j'ai reçu beaucoup dans Métamorphose, qui est ce fameux Frank Lobvey, qui est ce penseur contemporain un peu à contre-courant du développement personnel, et qui dit qu'il faut faire attention avec cette histoire d'alignement, parce qu'on chercherait forcément à être la bonne personne. C'est-à-dire que je cherche à être aligné, je cherche à être coûte que coûte une bonne personne. Et en fait, cette bonne personne, à l'intérieur de nous, peut entraîner aussi une forme de culpabilité parce qu'on est ombre et lumière par essence, même si on veut tendre vers une forme quelque part de transcendance pour justement atteindre peut-être une forme d'alignement, mais qui peut parfois aussi nous faire entrer dans une culpabilité. Et toi, j'ai découvert dans ton livre que quand tu parles d'alignement, tu ne parles pas forcément de cette idée de bonne personne, mais plutôt d'aller vers une forme d'épanouissement. C'est pour ça que j'aimerais t'entendre sur ce qu'est l'alignement, tu vois.
J'adore ce que tu viens de me dire là, parce qu'en effet, je pense que plus on essaye d'être cette bonne personne, en fait, on essaie d'être certainement, et c'est ça le souci qu'on voit le plus régulièrement, c'est être la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est bien ce qui nous pose des grandes difficultés aujourd'hui. Et on parle souvent, et le meilleur exemple, c'est les réseaux sociaux. Si je vais sur ton ou un de tes réseaux, ou celui que tu utilises le plus souvent, je vais voir la meilleure version de Anne. Est-ce que c'est la vraie version de Anne? Peut-être, mais j'en doute. Si tu viens sur un de mes réseaux, tu verras la même chose. Je vais être souriant, il y aura du ciel bleu derrière, je vais être sympathique, je vais parler correctement. Est-ce que les gens sont dupes? Certainement, mais c'est la situation dans laquelle nous sommes. C'est la société qui nous pousse, en fait, à montrer une version qui peut exister. Je ne dis pas que ça ne m'arrive pas d'être tout ça, mais ça m'arrive certainement bien moins souvent qu'être la vraie version de moi-même. Et c'est pour ça que le terme de bonne version, c'est certainement un peu compliqué. En tout cas, elle est un peu entre les deux. Moi, ce que je dis souvent, c'est en effet, la meilleure version de nous-mêmes est à proscrire. Elle est à proscrire parce qu'en fait, si tu es vraiment honnête avec toi, tu sais que ce n'est pas la vraie version de toi-même. Et d'ailleurs, le prologue, le livre pose, je commence comme ça, par le prologue en disant « Qui es-tu ? Qui suis-je ?» Et c'est bien ça que j'exprime en disant « Évidemment, ça prend souvent toute une vie de vraiment définir qui tu es. » Mais il faut déjà commencer à se poser les bonnes questions et avoir cette honnêteté intellectuelle. Et d'ailleurs, je le dis, je l'écris, personne ne te connaît vraiment. Personne ne connaît réellement Anne Guéquière ou Alexandre Mars, à part Anne Guéquière et Alexandre Mars. Même ton merveilleux époux ne te connaît pas parfaitement. Même mon incroyable épouse ne me connaît pas parfaitement. Et heureusement, il faut protéger aussi ça. Et donc, la question à la fin que je pose, tu es la seule personne à savoir exactement quelle est la vraie version de toi-même. Cet épanouissement viendra du moment où tu arrives à cet alignement. Cet alignement, c'est qui tu es vraiment et tu es la seule personne à savoir. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit « oui, il n'est pas vraiment aligné » ou « cette personne n'est pas vraiment alignée », mais qui es-tu pour dire ça ? Qui es-tu pour pouvoir le juger ? Déjà, le jugement est proscrit, devrait être proscrit. Et donc voilà, donc c'est ça voilà, pour moi. Et merci de m'avoir posé cette question-là parce que je pense qu'elle est essentielle. Il n'y a qu'une version importante, c'est la vraie version de toi-même. Et la vraie version de toi-même, personne, je dis bien personne, ne devrait pouvoir te l'imposer. Dans la société d'aujourd'hui, malheureusement, il y a des diktats, dont les réseaux sociaux, nous empêchent, la plupart du temps, à avoir un épanouissement parce que ça nous empêche d'être réellement qui nous sommes. Et je reviens, pour boucler la boucle avec cette jeune femme exceptionnelle qui dit « c'est ça que je veux faire, j'aime les livres depuis tellement d'années, et ben peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que vous pensez que ce n'est pas moi, mais moi je vais vous dire que c'est ça la vraie version de moi-même. » Et je peux t'assurer que hier, quand j'étais avec elle, elle avait un sourire, mais voilà, tellement, tellement beau.
Moi, j'ai le sentiment qu'une part quand même de nous-mêmes reste un mystère, c'est-à-dire que oui, nous pouvons peut-être être la personne qui nous connaît le mieux, nous-mêmes. Et en même temps, nous restons un mystère, à la fois parce que nous sommes faits de tellement de voix et de choses à l'intérieur de nous, d'une part, et puis d'autre part, nous n'avons pas toujours le recul nécessaire sur nous-mêmes pour nous appréhender pleinement. Est-ce que tu crois que finalement, on peut un jour répondre à cette question, qui est vraiment une question ancestrale pour l'humain, « Qui suis-je ?»
Moi, je pense que parfois, et c'est souvent mon cas, quand je démarque un projet, je dis toujours « je ne sais pas ». Et il se fait qu'il y a plein de choses, il y a beaucoup plus que je ne connais pas que de choses que je connais. Donc je pense qu'en effet, c'est même pas très humain, c'est très sain d'avouer qu'on ne sait pas. Donc pour ça, je te rejoins parfaitement. C'est une quête, et c'est bien, encore une fois, ce que tu permets régulièrement, ces moments où tu poses, où tu nous aides dans cette quête-là. Donc oui, c'est une quête. Toute personne qui dit « je sais tout », montre bien qu'il ne sait rien. Donc, évidemment que tu as raison. Maintenant, il faut toujours faire attention au doute. Le doute n'est pas toujours... parfois, il peut faire du bien, mais parfois, il va te nécroser. Il va te faire t'arrêter. Il va te faire trop penser. Et donc, c'est pour ça que je te dis... que chaque personne fonctionne différemment, ça c'est sûr. Mais je pense que imaginer qu'on ne sera jamais peut paraître parfois et fait tellement peur qu'en fait tu t'arrêtes et tu ne travailles pas dessus. Donc moi je pense que oui, tu as parfaitement raison. La personne que je suis aujourd'hui est différente de celle que j'étais il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Je tente de m'améliorer tous les jours. J'essaie de voir ce que je sais pourrait faire mieux pour les autres parce que c'est quand même... ma mission de vie, qui est celle-là, c'est pas... Et même si j'étais très heureux d'écrire ce livre, j'ai une mission de vie que j'ai définie assez jeune dans ma vie, de dédier ma vie, d'être au service des autres, en particulier ceux qui n'ont pas grand-chose. Donc il y a des moments aussi où il faut arriver à savoir pourquoi tu es là. Et après, tu as parfaitement raison. Il y a énormément d'améliorations à faire. On drafte très souvent beaucoup de choses. Et on est là aussi pour toujours tendre à s'améliorer. Je dis ça tout en sachant, et tu te souviens, dans ce il y a un chapitre qui est chapitre 16 ou 17, je crois que c'est le 17, qui dit « La perfection est une illusion ». Donc oui, tu as raison. Cette perfection, ce moment ultime dans lequel nous pouvons tout savoir, où nous pouvons être une version exceptionnelle, n'existera jamais. Moi, j'ai rencontré plutôt des gens, et toi aussi, je suis sûr, qui vivent en fait ou qui seront toujours tristes parce qu'ils se diront qu'ils n'atteindront jamais ce moment-là. Et ce moment-là, moi, je le pense sincèrement, n'existera jamais. Ton mari ne sera jamais parfait, tes enfants ne sont jamais parfaits, tes parents ne sont jamais parfaits, tes amis ne sont jamais parfaits, ton boss ne sera jamais parfait. Notre vie ne sera jamais parfaite. Et c'est dur à accepter, hein. Mais je peux t'assurer que les gens qui sont autour de moi, qui l'ont accepté, c'est pas pourtant qu'ils n'essayent pas de tendre vers ce point-là. Mais des gens qui imaginent que c'est réalisable, quasiment tous, quand même, souffrent. Tu l'as lu dans le livre, hein, je parle de ma maman. Hein,
oui, voilà, évidemment, j'allais t'en parler, puisque tu as vraiment ce partage. Alors, ce livre, il est construit à la fois autour de tes émissions, tes podcasts, ces personnes extraordinaires que tu as interviewées, mais aussi, évidemment, ton parcours et tes propres croyances et blessures. Et on voit que, on a tous notre lot, évidemment, dans une vie humaine, nos vies sont faites de tout cela. Et tu parles de cette relation avec une maman qui est vraiment dans une exigence de perfection, certainement malgré elle, hein, dans son parcours à elle aussi. Si on remonte la chaîne de chacun, il y a toujours des explications à pourquoi une personne est comme ça. Donc, si on fait
toujours,
un peu de thérapie transgénérationnelle, on verrait sûrement...
Toujours.
Et donc ça, c'est un mécanisme que tu as bien rencontré, du coup, en ayant été élevée par cette maman perfectionniste.
Oui, extrêmement aimante. C'est que, en fait, ça peut être, je pense pas que ça soit ambivalent, mais extrêmement aimant. Donc, elle n'était pas du tout. Tu sais, parfois, quand t'es perfectionniste, tu peux en être cassant ou cassante. Tu peux être dur. Maman, pas du tout. Maman, elle était douce et elle est douce. Elle est d'une douceur absolue. Mais maman, imagine avec moi les gens qu'elle aime. Qu'il faudrait que nous soyons parfaits. Ma maman a vu mon papa partir. Ils ont divorcé quand j'étais tout petit. Hein, j'avais 3 ans. Donc, et depuis ce jour-là, maman a toujours eu du mal à retrouver un vrai amour. Parce que maman vivait dans l'imperfection, qui était en fait une fausse perfection, de ce qu'elle se souvenait de son mariage avec mon papa. Et donc, évidemment, rapidement, mais c'est un mécanisme très classique, t'oublies toujours, le temps te fait toujours oublier ce qui n'allait pas. Tu le sais, hein. Donc, tu te souviens souvent des choses qui allaient bien. Et t'as un peu omis ce qui n'allait pas. Et maman, comme ça, malheureusement, chaque fois qu'elle a pu rencontrer un homme par la suite, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et ce que je dis souvent à mes amis et à ma maman, ça n'existe pas. Un homme ou une femme qui n'a pas de défaut. D'ailleurs, souvent, je le dis, mais heureusement, qu'est-ce qu'on s'ennuierait si on sortait avec des robots? Alors, c'est peut-être le monde d'après-demain, hein, mais ce n'est pas du tout un monde qui me fascine. Je pense que, même si parfois ça peut m'agacer, hein, certains défauts, mais c'est ça qui est le vrai beauté de ce monde, c'est nos imperfections, et voilà, cette lumière qui jaillit de nos failles. Ces failles, c'est merveilleux, c'est... Je ne dis pas qu'il faut les laisser grandir, ces failles-là. Je pense que, justement, moi, je crois que la libération par la parole est très importante. C'est pour ça que j'ai écrit tout ce que j'ai écrit dans ce livre. En effet, sur ces gens que tu décris très bien, ces gens qui ont un parcours extraordinaire. Mais si tu les prends à un moment de leur vie, ils étaient totalement normaux. Ou je dis ordinaires, avec tout ce qu'il y a de normalité dans le monde ordinaire.
Oui.
Et ben moi aussi, j'ai fait ce travail-là de partager... mes failles, mes blessures profondes qui ont fait être qui je suis aujourd'hui, qui ont fait que j'accepte justement plus facilement certains sujets. Je travaille, parfois je contourne parce que j'ai bien compris la difficulté, la complexité plus que la difficulté d'une vie humaine.
C'est intéressant parce qu'il y a celles et ceux qui ne te connaissent pas forcément, hein, parce que tu es très connu dans les milieux de l'entrepreneuriat, des start-up, tu as été une grande figure et tu es une grande figure de l'Internet en France et qui s'est aussi exporté aux États-Unis. Donc, c'est vrai que sur le papier, des personnes qui pourraient regarder ton parcours se disent « c'est facile, c'est un bel homme, il a fait un parcours brillant, il a réussi, une belle femme, 4 enfants, etc. » Et donc, il avait le bon nom, la bonne famille. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu reviens sur ce que maintenant on peut appeler aussi le syndrome de l'imposteur, sur tes blessures, tes failles, ce que tu as vécu, pour montrer que dans toute vie qui peut sembler extraordinaire aux yeux des autres, se cachent des existences qu'on pourrait dire ordinaires, mais extraordinaires par leur côté ordinaire, c'est-à-dire avec toute leur humanité en réalité. C'est ça aussi que tu montres dans ce livre.
Merci. Et merci de le dire. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, on ne parle pas assez de ces échecs, de ces blessures, de ces failles. Et en effet, si tu regardes le tableau, je ne vais pas te paraphraser, mais tu peux imaginer que, en effet, tout ça a été facile. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il faut plutôt dire, oui, bien sûr, tout ça est facile. Mais non, tout ça est d'une difficulté absolue, absolue. Et je l'explique, mes parents se divorcent quand j'ai 3 ans, donc je ne grandis pas avec mon papa. Et j'aime mon papa, donc... Il vient de partir récemment, donc c'est un sujet évidemment extrêmement sensible pour moi. Mais j'aime mon papa, mais mon papa m'a jamais couché, m'a jamais bordé un soir. Et donc maman m'a donné une puissance, parce qu'elle était débordante d'amour pour mon frère et moi-même. Et pourquoi en fait? C'est marrant, ça va te faire sourire, et ça va te faire sourire certainement les gens qui nous écoutent. Il y a quelques mois de ça, je l'ai dit à ma maman, je dis merci d'avoir divorcé. Je l'ai dit à mon papa aussi d'ailleurs, merci d'avoir divorcé. Alors ils étaient un peu étonnés. Mais je leur ai dit, honnêtement, vous n'étiez pas forcément fait l'un pour l'autre. Vous avoir eu à la maison, potentiellement vous crier dessus, ou ne pas sentir cet amour-là, la difficulté que ça peut engendrer, vous savez quoi? C'était une bonne chose pour moi. Maman, qui, elle, n'avait plus tout l'amour à déverser à papa, nous l'a déversé à nous, donc elle avait quand même beaucoup d'amour donné, mais je pense que ça m'a donné une confiance en moi très importante, très tôt, qui m'ont certainement fait faire des choses que je n'aurais peut-être pas fait, ou je n'aurais pas faites, si je n'avais pas eu maman. Et puis après, j'ai eu des échecs, qui sont des petits échecs quand je les regarde avec mes yeux d'aujourd'hui, parce que j'en ai connu d'autres beaucoup plus grands par la suite. Mais quand je redouble en troisième, quand je redouble et que j'arrive quand même, ce qui est quand même assez rare, donc il faut le souligner, à ne pas avoir mon bac de la première fois. Donc je me retrouve... À mon bac, j'ai déjà redoublé 2 fois, Anne. Ce sont des échecs. Ce sont des échecs, en tout cas, quand tu as 18 ans ou 19 ans, ce sont des échecs. En plus, mes potes, eux, avaient des résultats corrects, donc passaient dans les classes supérieures. Et ça, c'est vrai, de le partager, je pense que c'est important. Et en particulier pour, là, tu parles des entrepreneurs, mais ce n'est pas que ça. Moi, je me suis retrouvé, évidemment, tu peux imaginer, en échec scolaire, ou quasi-échec scolaire, avec des professeurs... qui n'était pas là pour m'encenser, tu peux imaginer. Et encore une fois, je les comprends. J'étais assez dissipé, ou on va dire plutôt assez... Voilà, des vrais problèmes de discipline. Je n'étais pas tellement intéressé par l'école. Et je me retrouvais avec des professeurs qui n'étaient pas forcément très contents de me retrouver dans leur classe. Et puis, j'ai aussi rencontré des gens qui m'ont tendu la main, qui ont confiance en moi, qui ont vu quelque chose que d'autres ne voyaient pas. Et c'est souvent, et d'ailleurs, c'est ce que je mets dans le livre, et je sais que c'est aussi un sujet pour toi... Il y a des rencontres dans nos vies, à toutes et à tous. On n'y fait pas forcément attention tout de suite. Il y a des moments qui vont nous transformer. Et ces moments-là, il faut y faire très attention. Parce que c'est potentiellement une direction totalement différente que nous prenons. D'ailleurs, je dis souvent, tu sais, la chance existe, les chanceux n'existent pas. C'est que ça dépend comment tu saisis cette chance-là. Et moi, c'était un proviseur qui, en terminale, m'a tendu la main. J'étais pas forcément le meilleur élève de mon lycée, loin de là. Il y avait des proviseurs qui ne voulaient pas me faire, des professeurs qui ne voulaient pas me faire redoubler dans le lycée. Et lui s'est levé, il s'appelait Pierre Attal. Il a dit, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas vu quelque chose que moi j'ai vu. Donc si Alexandre redouble, ce qui s'est passé, je n'ai pas eu mon bac, il ne partira pas et redoublera dans ce lycée. Là, il faut savoir qu'à l'époque, moi j'étais délégué des élèves, mais surtout président des élèves. Et c'était au collège et au lycée, c'est-à-dire que je représentais Lesia, parce que je te l'ai dit, très tôt, très jeune dans ma vie, cette vision de protection, cette vision de dédier une partie de mon temps pour les autres a été essentielle. Et c'est ce que je fais depuis longtemps, longtemps. Et lui, il avait vu ça. Un professeur, lui, regardait mes notes. Il disait, bon, bah, il a 7.
Et lui voyait le chien de berger, le leader, en fait, hein, dans le bon sens du terme.
En tout cas, le chien de berger sert certains. Peut-être le leader, mais en tout cas, le chien de berger, quelqu'un. Et ça, il a dit, le temps qui passe à faire ça, vous n'avez pas vu ça, moi, je l'ai vu. Et c'est quelque chose que j'écris dans le livre, d'ailleurs, et tu le sais. Ces gens-là qui nous ont aidés, ces gens-là qui nous ont ouvert une porte, ces gens-là qui ont laissé la porte ouverte pour nous, il faut aussi savoir les remercier. C'est parfois peut-être un mal de notre société de ne pas remercier, de faire penser qu'on a réussi tout par nous-mêmes, qu'on n'a pas eu besoin d'aide. Et ça aussi, ne soyons pas dupes, ne soyons pas naïfs, ne nous mentons pas à nous-mêmes. Il y a toujours un moment ou un autre où quelqu'un nous a aidés. C'est un parent, c'est un frère, c'est une sœur, c'est un ami, c'est quelqu'un que tu as rencontré dans la rue, c'est un professeur. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc, moi, ça, c'est mon évolution. Tu vois, j'ai eu, et à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup mieux travaillé, beaucoup plus. La vérité, c'est que mon année terminale, c'est là où j'ai rencontré Florence, qui est devenue mon épouse. Et donc, j'étais peut-être un peu plus concentré sur le travail que sur d'autres choses que tu peux comprendre, parce que j'avais enfin trouvé l'âme sœur, qui est vraiment mon âme sœur. Et j'ai pu me concentrer un peu plus sur le travail que sur les filles. Donc, ça a peut-être pas mal aidé. Et donc, de ça, j'ai commencé à travailler. Je suis allé à Nanterre, parce qu'il n'y avait que cette faculté qui était en faculté publique qui m'acceptait. Hein. Je n'avais pas les niveaux pour faire une prépa ou une autre école. J'avais des très bons résultats. Je suis rentré à Dauphine. J'avais des très bons résultats et je suis rentré à HEC. Donc, ce travail, je l'ai fait. Je me suis mis à vraiment travailler à ce moment-là. Mais de nouveau, j'ai pris un chemin de traverse. Ce n'était pas le chemin classique pour réussir les études, en tout cas.
Je me suis demandé aussi, dans ton chemin, tu parles beaucoup des chemins de traverse. Peut-être on y reviendra, puisque tu as interviewé des personnes qui reflètent ces chemins de traverse. Et tu parles de ceux qui pourraient nous écouter et qui disent, ben, quand même, il a peut-être eu des difficultés, mais il a été très aimé. Mais une personne qui nous écoute, d'ailleurs, ce serait intéressant, vous qui nous écoutez, d'avoir aussi vos témoignages, peut-être, de revenir sur une rencontre, peut-être, qui a marqué votre vie, quelqu'un pour qui il y a eu un tournant décisif, qui a été pour vous, que ce soit dans une façon de créer la rencontre, et ça, je sais que tu insistes aussi dessus, ou une rencontre qui, dans le cas de ton proviseur, il était là, il t'a reconnu et il t'a mentoré d'une certaine manière, sans que tu aies eu forcément à créer cette rencontre. Mais peut-être revenir sur ceux qui ont l'impression de ne pas être tombés du bon côté, qui n'ont pas le bon milieu, la bonne famille, la bonne couleur de peau parfois, le bon réseau, peut-être pour certaines personnes une forme de handicap, etc. etc. Je ne vais pas citer toutes les difficultés que les gens peuvent rencontrer, mais en tout cas se disent il avait quand même peut-être certaines chances de son côté que n'auraient pas d'autres. Et toi, tu dis, c'est intéressant parce que ces gens-là, tu les as rencontrés. Notamment, tu parles de Mariam, qui est une jeune femme brillante. J'aimerais bien peut-être que tu nous parles de son histoire.
Bien sûr. Et ne soyons pas non plus ne soyons pas non plus trop bisounours. Ce que j'ai à part là, c'est qu'en effet, atteindre ses objectifs, le mot réussite, et je trouve, est un mot qui est un peu trop grand, en tout cas, met une pression parfois inutile. J'aime bien plutôt des objectifs, parce que tu sais, un objectif, tu peux atteindre souvent un objectif quand tu mets des moyens. Moi, ce que je dis souvent, pour moi-même d'ailleurs, je vais mettre les moyens nécessaires et je vais tout faire pour atteindre cet objectif. Est-ce que j'aurai le succès de l'atteindre? Pas toujours. Et honnêtement, pas toujours. Mais au moins, j'aurai fait le nécessaire. Tu parlais de cet exercice, et merci de nouveau de demander à tes auditrices et auditeurs, dans le livre, pose, dans les annexes, tu sais, il y a 10 exercices.
Ah oui, on y reviendra tout à l'heure. Ouais, tout à fait.
Et justement, un des exercices, c'est l'exercice numéro 1, c'est celui-là, en fait. C'est essayer de savoir prendre un peu de temps, c'est pour ça que j'aime bien cette pause, prendre le temps de réfléchir en disant, mais quelles sont ces deux personnes qui nous ont permis de faire quelque chose, d'être meilleur, de rencontrer. Enfin, c'est un sujet évidemment important à traiter. Tu parles de Mariam. Mariam, quand je disais que nous ne sommes pas tout bisounours, ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, il est plus simple aujourd'hui de s'appeler Anne ou Alexandre, d'être blanc, pour moi d'avoir les yeux bleus. Je mesure 1m89, j'avais un amour infini de ma maman, je grandis dans une république, une démocratie. Donc, évidemment que j'ai déjà beaucoup dès le départ. Et c'est pour ça que très rapidement, je me suis senti être un obligé, Anne. Je me sens au quotidien être obligé, et je le prends très bien. Si je me dis toujours, si des gens comme moi, qui ont beaucoup, qui n'ont pas tout, mais beaucoup, ne mettent pas leur existence, ou une partie importante de leur existence au service des autres, je pense que la finalité ne sera pas jolie à voir. C'est pour ça que c'est important de l'en parler. Mariam, que je rencontre, à travers une organisation qui est exceptionnelle, qui s'appelle Télémac, qui est une organisation sur le mentorat. Et donc, je suis parrain d'une promotion, et je rencontre donc certains jeunes. Et je rencontre Mariam, qui excelle, Anne, elle excelle dans ses études. Et donc, je lui pose une question classique. Mariam, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Elle était en prépa à ce moment-là, et elle me dit, travailler dans le luxe, elle se pose, et elle me dit, mais ce n'est pas pour moi. Et comment accepter, dans le monde d'aujourd'hui, qu'une personne brillantissime, juste parce qu'elle n'a pas la bonne couleur de peau, peut-être, parce que Mariam est noire, juste parce qu'elle n'a pas grandi dans le bon quartier, juste parce que ses parents n'ont pas les accès nécessaires, ne pourrait pas atteindre les objectifs. Et c'est ça l'histoire de Mariam. Et l'histoire de Mariam, comme tu le dis très justement, ça peut être une couleur de peau, ça peut être un sujet social, ça peut être, et j'en ai beaucoup dans le podcast Pause qui est dans le livre, des gens qui viennent de régions, qui n'ont pas grandi dans le 7e arrondissement de Paris, et qui disent, de facto, ce n'est pas pour moi. C'est pas possible. Et ces limites-là, qui sont très souvent des limites ou des dictats de la société, font que tu t'arrêtes. Tu tentes même pas, tu t'arrêtes. Alors parfois, on va tenter, c'est-à-dire nous allons tenter, c'est-à-dire la société doit faire quelque chose et doit pousser les gouvernements, les États, à légiférer. On parle de la loi Copé-Zimmermann, une loi essentielle en France sur la parité, femmes et hommes. On parle de la loi Rixin, qui est une loi qui va plus loin encore. Donc, parfois, on le sait, c'est réel. Cette limite n'est pas du tout une limite d'intelligence, n'est pas une limite de force, n'est pas une limite de bienveillance, de patience, de gentillesse, de talent, mais une limite qui est essentiellement mise par un système qui n'accepte pas le changement. Pour faire ça, il y a plusieurs manières. Une des manières est l'entrepreneuriat, que tu connais très bien, puisque toi-même, tu es entrepreneur. Une autre possibilité, c'est les lois, le changement des lois. Et une troisième, c'est une mentalité, c'est une question d'état d'esprit. Et de ne pas être totalement... de ne pas penser que ça n'existe pas, mais de se dire, on le sait, on va devoir affronter ça. Et tu l'as lu dans le livre, il y a beaucoup d'histoires, énormément d'histoires, de personnes qui, au départ, si tu les mets sur la ligne de départ, tu dis, ce n'est pas possible qu'ils atteignent leurs objectifs. Et pourtant, ils les ont atteints.
Dans ton parcours, d'ailleurs, tu parles aussi de cet épisode extrêmement douloureux avec ton frère, et je pense à Ludovic Savariello, que j'ai reçu dans ce podcast assez récemment, qui a perdu son meilleur ami en plongée au moment de son enterrement de vie de garçon, 3 jours avant son mariage, donc, puisqu'il enterrait sa vie de garçon. Et on s'est posé la question avec Ludovic. Ensuite, il est parti, il a endossé le costume de l'entrepreneur hyperactif et il s'est perdu dedans. Et toi, tu le dis aussi dans ce livre que cette douleur a fait qu'à un moment, quand on vit un drame personnel, un trauma, puisqu'il s'agit vraiment de ça, on va endosser cette carapace qui va être un masque, qui est notre masque de survie finalement, et que tu as déconstruit ensuite petit à petit. Parce qu'aujourd'hui, tu es un entrepreneur, tu étais connu pour ça, et tu signes un livre presque de psychologie, je dirais.
De développement intérieur, certainement, oui.
De quête de sens.
Oui, de quête de sens. Mais si on revient, tu sais que ce livre est le troisième livre. Mon premier livre, qui s'appelle « La révolution du partage », était le premier livre vraiment sur le sens, sur la société qui va, et on le voit, trouver ou tenter de trouver de plus en plus de sens. C'est vrai que tu parles de l'entrepreneuriat. C'est vrai que je suis un entrepreneur et j'ai commencé à construire ma première entreprise très jeune. Mais je me considère essentiellement comme un citoyen hyper engagé, c'est certain. Et l'entrepreneuriat pour moi était, et encore aujourd'hui, mon meilleur outil. Mon meilleur outil, ma meilleure arme, pour être franc. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que la société dans laquelle nous vivons, et si nous voulons vraiment, vraiment changer le système et aider ceux qui ont peu, ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont en grande difficulté, aujourd'hui, c'est un combat. Et j'ai décidé que l'entrepreneuriat allait être mon outil, mon arme pour y arriver. Tu parlais de ce moment. Ce moment, c'est le moment le plus dur de ma vie. Hein. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mes échecs. Quand je redouble Anne, sur le moment, ça me paraît catastrophique. Peut-être qu'en troisième, d'ailleurs, je pleure quand je sais que je vais redoubler. Alors que je le méritais. Hein. Je méritais parfaitement de redoubler. Je ne travaillais pas. Donc, à bout d'un moment, il faut assumer ce qu'on ne fait pas. Quand mon frère part, parce que mon frère décide de partir. Donc, mon frère est bipolaire, il décide de partir. Sa bipolarité se manifeste à 30 ans. Donc, depuis que ça s'est manifesté, tu peux imaginer que je me suis beaucoup intéressé à ces sujets de maladies mentales, qui sont des sujets évidemment majeurs. Tout le monde en parle Je pense que tout le monde est touché parce que tout le monde connaît quelqu'un. Souvent proche, parfois très proche. Et donc tout le monde, évidemment, parfois assez désarmé, désarçonné par ce qui se passe parce que en fait, on n'a pas de livre blanc. Chaque personne est différente. Chaque maladie est différente. Alors, bien sûr, tu vas trouver des choses similaires entre deux personnes qui sont bipolaires ou trois personnes qui sont schizophrènes. Mais il n'empêche que, tu le disais tout à l'heure très justement, tout ça est une conséquence parfois, a des conséquences aussi différentes selon les familles, selon les environnements, selon les âges. Et donc, moi, je me retrouve à perdre mon frère, qui est mon frère unique, hein, qui est une personne que j'aime infiniment, comme tu peux l'imaginer, et que je considère comme souvent quand tu perds quelqu'un d'aussi important et par une décision qui est la sienne, hein, tu dis, il y a un truc que j'ai pas fait, quoi. Il y a un truc où que j'ai pas entendu et pourtant je peux t'assurer que j'étais proche de lui, hein, et je m'en occupais mais beaucoup, mais j'avais pas vu jamais une seule seconde. C'est faux d'ailleurs. Une fois je me suis dit quelques jours avant, mais si ça arrivait, mais j'ai effacé ça, je pouvais pas imaginer que mon frère pouvait partir. Et donc donc oui, après, tu c'est pas que tu te reconstruis, d'ailleurs, parce que, évidemment, t'es détruit, et je pense à moi, mais je pense à ma maman et à mon papa. Parce que c'est pas dans le sens de l'histoire de pouvoir perdre un de ses enfants. Un frère et une sœur non plus, hein, tu vas me dire, mais un enfant, c'est pas possible. Et donc là aussi, tu vois, tu parles de construction, moi j'ai dû être fort, hein. Et moi, c'est l'histoire de ma vie, Anne. Moi, de l'histoire de ma vie, c'est de devoir gérer pour les autres. Quand mon papa est parti très tôt, hein, j'ai vu maman souffrir. Et donc, j'ai dû, tu vois, être le bonhomme, hein, être là. Gérer, protéger. C'est pour ça que très tôt dans mon existence, je me suis mis à protéger les gens. Dès la maternelle, j'étais chef de bande, délégué tout le temps. Pour moi, c'est une... Et je sais ma mission sur Terre, Anne, je la connais depuis très longtemps. C'est être au service de ceux qui n'ont pas. Protéger ceux qui ont des vraies difficultés. Quand j'étais plus jeune, moi, je voulais être travailleur social pour les enfants abusés, les enfants battus. C'était ça que je pensais faire dans ma vie. Parce que je me disais, mais comment un homme, c'est la plupart du temps un homme, hein, d'ailleurs, hein, peut utiliser sa force physique sur un enfant ou une femme? Pour moi, c'était juste la pire des lâchetés. Et donc, je m'étais dit, c'est ça sur lequel il faut que je travaille. Et puis, je me suis rendu compte au fil des années que mon impact ou mon unicité, ma capacité, était peut-être ailleurs. En tout cas, si je voulais avoir plus d'impact. Mais donc, pour revenir au drame de ma vie, qui est la perte de mon frère, je ne peux pas vaciller. C'est pas possible. Parce que ma maman vacille, parce que mon papa vacille. Et on était, voilà, frère et sœur. Excuse-moi. On était deux frères, donc il n'y avait pas d'autre possibilité. Personne d'autre sur lequel me reposer. Et donc, moi, à ce moment-là, ma construction, ma reconstruction, je l'ai trouvée. Maman, toujours, depuis tout petit, m'a toujours inculqué une notion essentielle. Regarde toujours le verre à moitié plein.
Tu en parles d'ailleurs, tu parles de cueillir nos pâquerettes, et c'est ça pour toi en fait le bonheur.
Ouais. Et je peux t'assurer que quand tu perds un contrat, quand tu loupes un avion, quand tu... Je sais pas, c'est... Déjà, c'est plus facile à trouver le verre à moitié plein. Quand tu perds ton frère, quand tu perds ton fils, c'est très, 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 très dur. Et moi, malgré ça, il fallait. Et tu le définis pas, hein, tu dis pas, il faut absolument que je trouve... Non, c'est juste que je me suis dit, ou c'est plutôt le cheminement qui a été le mien à ce moment-là. Et le cheminement qui a été le mien, c'était... de travailler, de me dire, est-ce que je le reverrai un jour, mon frère? Et c'était pour moi ma direction. Mon frère croyait beaucoup à ça, croyait à la vie après la vie, profondément et intensément. Et c'est une raison pour laquelle il est parti d'ailleurs. Mon frère ne pensait pas que sa présence ici ou ce qu'il faisait ici était peut-être potentiellement aussi importante ou intéressante de ce qu'il pouvait voir dans une vie future. Donc, pour moi, c'était illogique d'entendre ça de sa part. Et ça a été mon chemin, parce qu'on a tous un chemin de vie. Hein. Et sur le parallèle, en parallèle d'essayer d'être fort, de protéger les gens que j'aime, et que j'aimais évidemment à ce moment-là, parce qu'ils étaient en souffrance absolue, toi, j'essayais de peu craquer. Alors, je craquais, évidemment, hein, tout le temps, tous les jours. Je pleurais. Et voilà, et j'ai eu la chance d'avoir à côté de moi ma femme, celle dont je parlais tout à l'heure, celle que j'ai eu la chance de rencontrer à 17 ans, qui était là. Et puis mes enfants qui me voyaient peiner, mais je dis souvent d'ailleurs à mes amis, montrez votre peine, montrez votre souffrance. Parce que de nouveau, nous ne sommes pas des robots. Et c'est normal que mes enfants puissent voir que j'étais fracassé à ce moment-là. Et pourtant, je devais tenir le gouvernail. Je dirigeais déjà différentes entreprises. J'étais toujours à gérer, parce qu'à côté de ça, je me souviens très bien, tu vois, j'avais des événements importants pour Epic. Epic, c'est une société que je dirige, que j'ai créée, qui est une entreprise qui travaille dans l'humanitaire et qui fait au quotidien beaucoup pour changer la trajectoire des plus malchanceux. Et donc, évidemment, je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas dire, vous savez quoi, on met sur pause. On était en plein... moment important, parce que c'était les mois de début décembre où on était à faire des événements. J'étais aux États-Unis à ce moment-là. On était en train de partir dans les différents pays, en Angleterre, en Belgique, en France. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas dire, vous savez quoi. Et donc, voilà. Et donc, c'était un travail important. Et un jour, j'ai su que j'allais revoir mon frère et que la vie après la vie n'était pas une ineptie, n'était pas un sujet qui faisait sourire, en tout cas qui me faisait sourire. Et à partir de ça, tu sais, Anne, je pense que plusieurs choses. Un, je pense que je suis beaucoup plus sage depuis. Parce qu'avant, j'étais dans un monde où je me disais, il n'y a qu'une vie. Il faut que j'en profite, mais tellement. Et aujourd'hui, je ne me dis pas ça. Ce n'est pas pourtant que je ne travaille pas plus que de raison, que je ne fais pas beaucoup, mais je ne le fais pas pour les mêmes raisons. Je ne le fais pas dans la raison de me dire, tu sais quoi, il y a un moment où ça sera stop. Non, je ne sais pas ce qu'il y a après.
Il y a une forme d'éternité peut-être qui t'habite maintenant.
En tout cas, ça me fait plus sage et ça me fait plus serein. En fait, j'ai pas de peur de la mort. J'ai pas peur de la mort parce que le jour où tu sais réellement et je sais quelque chose, mais en globalement, ça te fait plus peur. Et donc, c'est pas pourtant que j'espère que ma vie ici ne durera pas un peu plus. Et puis là-dessus, tu sais, moi je crois beaucoup au destin, donc tu sais, tu peux faire autant d'incantations que tu veux, autant de prières que tu veux. D'ailleurs, tu pries jamais pour toi. Tu sais quoi? Moi je crois que le destin, il arrive à un moment ou à un autre. Et puis c'est comme ça. Donc, alors c'est pas pourtant qu'il faut que tu fasses attention. Ne fumez pas trop, ne buvez pas trop, faites du sport, soyez pas trop sédentaire, évidemment tout ça. Mais au bout d'un moment, tu sais, il y a des choses que tu ne contrôles pas. Et on revient sur le sujet de départ, Anne. Tant mieux de ne pas contrôler ces choses-là. Quand je vois ces entrepreneurs qui veulent absolument vivre jusqu'à 150 ans, tout contrôler du matin jusqu'au soir.
Mais quelle tristesse. Je vois à qui tu penses.
Il y en a beaucoup. Hein.
Ah oui.
Mais quelle tristesse. Quelle tristesse. Parce qu'on le voit, hein, tu sais, moi, je vois des gens vivre vieux. Tu sais, c'est cette chanson de Vianney, tu sais. L'objectif, c'est pas de vivre vieux, c'est de vivre mieux. Les fins de vie, les sujets qui sont importants, dont on parle beaucoup, dans beaucoup de pays, en France en particulier, ces fins de vie. Ça aussi, hein, c'est des sujets. C'est pas, je reviens sur cette vision parfaite, la vision Instagram. Instagram est un mensonge. Éduquer des enfants est difficile. Faire qu'ils puissent être parfaits est impossible. Avoir un couple toujours uni, toujours qui ne s'engueule jamais, est un leurre. D'avoir des parents qui vivent parfaitement jusqu'à 150 ans est impossible. Arrêtons de faire croire à tout le monde des choses qui sont impossibles. Impossibles.
Mais je ne sais pas si dans le fond, on est vraiment dupe de tout ça. Et je me suis posé la question quand même en t'écoutant. Cette vision d'éternité qui déjà s'est incarnée sous une forme de sagesse dans cette vie-là, est-ce qu'elle est portée par ton frère qui te tend la main depuis cet espace d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une foi qui te porte particulière ou une croyance? Ou en tout cas, quelle est ta vision par rapport à cette éternité?
Ouais, plusieurs choses. Un, j'ai beaucoup d'estime. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup d'estime pour beaucoup de gens. Tu m'entendras très rarement critiquer qui que ce soit, à part ceux qui veulent tout faire ou penser qu'ils peuvent décider de ce qu'ils veulent parce qu'ils ont de l'argent. Ça, j'ai aucun respect pour des gens qui pensent que soit par leur force, soit par leur argent, peuvent contraindre. Ça, pour moi, je suis très Robin des Bois, comme tu as compris. Hein. Ça, pour moi, c'est inacceptable, inimaginable.
On pourrait dire sauveur aussi.
Ouais, non, ça, c'est trop grand. Non, moi, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai travaillé très tôt. Hein. Je voulais avoir les moyens de ma liberté, parce que je savais que l'argent nous apporte une certaine liberté. Il peut, si tu ne fais pas attention, te contraindre. Mais pour moi, c'est important. Mais j'ai, pour revenir à ta question, j'ai une estime très forte pour les gens d'église. Quelles que soient les religions, je pense que dédier une existence à un sujet, pour moi, me conforte dans la capacité de voir le bien chez beaucoup de gens. Et quand je dis ça, tu peux imaginer que ça veut dire pour les infirmières qui dédient leur vie à des gens en souffrance, à leur vie. Pour moi, les infirmières, c'est en haut de tous nos classements. Mais c'est très large, hein. Ça va être des militaires qui vont et qui dédient aussi leur vie. Moi, je vois mon neveu est parti aujourd'hui militaire, a décidé d'arrêter l'étude et aujourd'hui militaire. Et j'ai un énorme, profond respect pour eux. Donc, moi, j'aime les gens, mais encore plus, on va dire, ceux qui adossent ceci à une mission. Pour répondre à ta question, évidemment, j'ai la foi. J'ai une foi absolue. J'ai une foi et dans le fait qu'il y a quelque chose qui nous dépasse toutes et tous. Et d'ailleurs, tu l'as bien lu parce que c'est le chapitre 19. Je parle de mission, mais ne vous inquiétez pas, hein, qui nous écoute, c'est pas forcément une mission religieuse. Hein. C'est d'ailleurs, c'est pas du tout ce que je dis, pas du tout. Je dis que nous avons un rôle, forcément, un rôle ici.
Au service de quoi, finalement, nous nous mettons, c'est ça ?
Oui, exactement. Et c'est à tout. T'es la seule personne à savoir le définir. Vous êtes toutes et tous les seuls à pouvoir définir. Et c'est très, très large. Hein. Très, très large. Et j'adore avoir ces questions-là. Je te parlais de cette libraire. Cette libraire, sa mission, ça va être de faire rêver, d'éduquer, de partager des textes aux gens qui vont ouvrir la porte de la librairie. Et je peux t'assurer que cette mission, ça la remplit de bonheur. Donc chacun va voir sa mission. Toi, c'est de faire du bien, j'en suis persuadé. Chaque personne qui vont écouter, qui vont... Toi, moi, je me souviens, j'ai écouté encore ce matin ton podcast sur l'addiction. Pas que je sois addict, hein, je vous rassure, mais ça m'intéressait, ça m'interpellait, parce que je connais des gens qui sont addicts. Alors moi, je suis certainement addict au sucre, je dois l'avouer, c'est une addiction forte. Mais tu apportes une connaissance. Parfois, justement, dire, tiens, je ne suis pas le seul à faire ça ou à penser à ça. Donc ça, pour moi, c'est assez clé dans nos existences, d'arriver à définir pourquoi. Et dans le chapitre sur les missions, je donne tout un tas de missions. Ça m'amuse toujours, celle de... Par exemple, je te prends l'exemple, je l'ai là, mais toi, ça m'amuse, celle de Ben Mazuet. Je pense que tu connais et j'espère que tu apprécies les chansons de Ben Mazuet. Et je pense que certaines de tes auditrices, certains de tes auditeurs l'apprécient. Et toi, pour lui, sa mission, elle est intéressante parce que il se dit, moi, ma mission, c'est sa raison de vivre, c'est de faire de la musique, me lever le matin, sans me poser la question de savoir si oui ou non, je dois me lever, c'est une raison de vivre. En fait, lui, il se pose la question, c'est de faire de la musique, et il dit que la musique a certainement un impact positif. Et donc, il y a vraiment de tout dans les gens qui à un moment ou à un autre, se posent la question. Et c'est ça qu'en fait, j'essaie de soumettre comme idée à travers mes podcasts et ce livre Pause, c'est vraiment cette idée de te dire, essaie de la définir. Et passe le temps, je ne dis pas qu'il faut que tu puisses me répondre maintenant, parce que ça peut prendre des années. Mais si tu ne la définis pas, je suis intimement persuadé que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu vas vivre avec des regrets.
D'ailleurs,
et ça, c'est essentiel.
Sur cette idée de mission de vie, j'étais interviewée il n'y a pas longtemps dans une émission de radio. C'était le thème de l'émission de radio. C'était un peu « qu'as-tu fait de tes talents, de tes dons hein, ?» C'est dit dans la Bible de cette manière-là, mais globalement, ça revient. Ça, c'est quoi ta mission de vie ? Et on a beaucoup discuté dans cette émission, et j'aimerais bien t'entendre là-dessus, sur ce mot de mission de vie qui peut faire peur. Parce qu'effectivement, il fait référence dans un archétype un peu différent à ce côté missionnaire. Et chez certaines personnes, on a le sentiment qu'ils sont arrivés dans le berceau, que la fée s'est penchée sur le berceau et que leur voie, on va dire la voie, était comme toute tracée. Même s'il y avait des difficultés, il y a des gens comme ça, paf, ils deviennent des musiciens extraordinaires, des gens. Et on a beaucoup parlé de cette mission de vie qui peut être dans les petites choses en fait, du quotidien. On parlait du bonheur, de se réjouir en fait des petits riens, et parfois une mère, un père de famille qui va faire de la cuisine avec amour et offrir ça à ses enfants peut être une mission de vie. En fait, il n'y a pas de petite et de grande mission.
Et merci Anne de le dire. Je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, tout doit être grand, tout doit être important. On ne peut pas juste un peu réussir. Tu vois, il faut forcément beaucoup réussir. Mais c'est des mauvaises injonctions, en fait. Ce n'est pas les bonnes. Je pense que nous avons toutes et tous une raison d'être. Il faut juste définir laquelle elle est. Alors, parfois, et j'ai eu cette discussion-là, et je pense que beaucoup de mamans vont se reconnaître là-dedans. Parfois, les questions que j'ai avec des mamans, elles me disent, ben moi, ma mission, c'est de m'occuper de ma fille, mes deux enfants, mes trois, mes quatre, mes cinq enfants. Et je pense que ce n'est pas, et j'espère pas perdre certaines auditrices, auditeurs quand je vais dire ça, mais je pense pas que c'est forcément ça la mission. Je pense que ça, c'est une obligation de bien nous occuper de nos enfants. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu cette discussion-là avec Florence, mon épouse, il y a quelques temps de ça. Et on était à dîner tous les deux. Et je lui pose cette question-là. Et elle me voit arriver, donc elle me répond en disant « Mais arrête Alexandre avec ses missions, parce que tout le monde ne veut pas, comme toi, dédier sa vie aux autres, de changer le monde. Laisse-moi avoir comme mission de m'occuper de mes quatre enfants et que ça se passe bien. » Donc je ne l'ai pas lâché. Alors, voilà. Et je ne l'ai pas lâché. Et donc, on a une discussion assez animée. Et je lui dis, mais je te connais parfaitement. Il y a autre chose. Creusons. Et donc, c'est ça, en fait. C'est aussi ça, le partager avec des proches en disant, mais est-ce que tu es vraiment sûr que c'est... Celle-là, elle est magnifique. Hein. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas essentiel. Mais pour moi, c'est une obligation. On ne peut pas faire ce qu'on a fait avec nos enfants pour ne pas tenter de faire le mieux. On pourra en reparler, Anne. Je pense qu'on drafte beaucoup avec nos enfants. Il y a beaucoup de drafts que nous faisons et c'est très, très difficile d'éduquer des enfants. Et on fait notre mieux, c'est ça qui est important. Et en fait, en creusant avec mon épouse, on a remonté un peu une voie. Et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Mon épouse fait des grandes études, va travailler dans un grand groupe et se rend compte que c'est pas forcément ça qu'elle a envie de faire de sa vie. Mais même pas du tout ça qu'elle veut faire de sa vie. Et là, elle part travailler en Inde pour Mère Teresa. Et elle travaille là-bas. Et elle travaille, elle voulait, normalement, elle devait atterrir dans un mouroir, comme vous savez, à Calcutta, c'est là où... En fait, elle n'atterrit pas à Calcutta, elle arrive à New Delhi, parce qu'elle connaît quelqu'un qui peut l'héberger là-bas. Et à New Delhi, en fait, elle ne travaille pas dans un mouroir, mais elle travaille dans un orphelinat pour enfants neuroatypiques. Alors, on dit neuroatypique aujourd'hui, hein, parce que c'est comme ça qu'on appelle, mais c'était essentiellement des enfants autistes ou des handicapés physiques. Donc, voilà. Et en fait, elle passe comme ça 9 mois de sa vie. Et pourquoi je te parle de ça? Parce qu'à ce moment-là, elle s'en rend compte, certainement, qu'un des moments où elle se sent la plus épanouie, la version la plus exacte d'elle-même, c'est quand elle est avec ces jeunes-là. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on revient après, on vit notre vie ensemble, on se marie, on fonde un foyer, on part aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle continue à faire évidemment, travailler dans des bons groupes, dans des grands groupes, à réussir ce que certainement son diplôme allait lui imposer de faire. Mais en parallèle, elle s'occuper d'enfants et de jeunes adultes autistes aux États-Unis. Et quand elle revient en France, quand nous revenons habiter en France, elle ne lâche pas, elle reprend ses études, elle va faire un diplôme pour justement pouvoir un jour ouvrir une maison. Et pourquoi je te dis ça? C'est qu'aujourd'hui, Florence, mon épouse, a continué ce cheminement-là. Et aujourd'hui, elle est productrice éditoriale d'une émission que certaines d'entre vous et certains de vous connaissent. C'est les Rencontres du Papotin, qui est une émission exceptionnelle,
oui,
qui est diffusée sur France 2. Et c'est important d'annoncer France 2, parce qu'ils ont eu le courage de mettre en avant cette émission à 20h30 le samedi soir. Donc c'est assez rare. Et qu'est-ce que fait ces Rencontres du Papotin? C'est que ce sont des adultes et des jeunes adultes neuroatypiques qui sont journalistes et donc qui vont interviewer sous la houlette d'un personnage central dans cette émission qui s'appelle Julien, qui est quelqu'un qui est travailleur social mais qui s'occupe de ces jeunes-là et qui va interviewer les plus grandes stars francophones, dont le président de la République qui est passé. Et donc, Tu vois ce que je veux dire par là? Quand j'ai la première discussion avec mon épouse, elle est assez escagacée par ma question. Parce qu'elle me dit exactement ce que tu dis là. Mission, c'est un terme trop grand. Comment on arrive? Les chaussures sont trop larges, si on parle de mission. Et puis, tu as raison également. Mission, c'est forcément religieux. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça que je veux vous dire. C'est arriver à savoir pourquoi. Pourquoi ici? Et là, on a travaillé, on a parlé, on a discuté, on a échangé. Et à la fin, quelle est la mission de mon épouse? Évidemment, ce sera de s'occuper des 4 enfants. Mais sa mission, selon moi ici, et selon elle, c'est de démontrer au plus grand nombre que le neuroatypisme peut apporter énormément de choses et n'est pas que ce que les gens peuvent voir. Vous pouvez voir au préalable des gens qui ne vont pas être normaux. Et cette normalité est celle que nous, on donne et qu'on définit. Et ça, à travers ce qu'elle a pu faire, pu voir, et tu vois quand je la vois aujourd'hui, quand je l'accompagne, dans ces moments-là, mais tu ne peux pas imaginer le bonheur, là, le bonheur et l'épanouissement que je vois chez ma femme. Mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et donc, oui, elle a trouvé. Bah, ça a pris peut-être des années, mais elle a trouvé. Et c'est ça, sa mission. C'est sa mission à elle. Et tu vas me dire, comme moi, comme toi, Anne, nous sommes des tout petits soldats. Mais c'est important que nous soyons ces petits soldats. Parce qu'il y a beaucoup de grandes batailles à mener.
Oui, et je fais un petit poke personnel pour mon frère qui est éducateur spécialisé et qui régulièrement emmène ces neuroatypiques avec lesquels il travaille au papotin et dont il me parle aussi beaucoup. Alors voilà.
Ah, j'adore. Comment s'appelle? C'est quoi le prénom de ton frère?
Ah, je te le dirai hors antenne, tiens.
Ah, bon, il faut, tant mieux. Mais en tout cas, oui, alors ça aussi, quand on parle tout à l'heure, je mettais en avant des professions, les éducateurs spécialisés, les éducateurs au sens large. Merci, là aussi, merci de dédier une grande partie de vos existences à des sujets qui sont essentiels.
C'est ça.
Qui sont essentiels. Merci.
Mais c'est vrai que c'est extrêmement touchant. Je me souviens de cette émission aussi avec Camille Cotin, dans Le Papotin. Vraiment une magnifique émission. Hein. Donc là...
Exceptionnel.
Voilà, big... En tout cas, grand bravo à ton épouse. Là-dessus, on approche, Alexandre Marx, de la fin de cette émission.
J'ai su, en fait, que, et je le sais, dans ton émission, tu peux réinviter plusieurs fois la même personne. Donc, je pense qu'on a encore, tu sais, on a beaucoup de sujets à traiter.
On va faire une série complète, parce qu'avec certains de mes invités, je fais des séries en 6 épisodes. Et je crois que c'est ça le format qu'il faudrait pour toi, Alexandre, qu'on fasse une série en 6 épisodes tous les deux.
Je pense que là, on peut, parce que là... Parce qu'on a beaucoup de sujets à traiter.
Simplement pour par rapport à cette idée de réussite et de mission de vie, parce que le mot réussite peut faire peur. Là, je vais reparaphraser Franck Lobvet qui dit finalement on ne peut ni réussir ni échouer sa vie, on ne peut que la vivre. J'aime beaucoup cette phrase et ça te rejoint dans ta définition de la réussite. Et tu as aussi le culte du petit projet. Moi, je parle aussi de la théorie des petits pas avec le Kaizen ou la méthode du boomerang, qui est vraiment de cette idée de lancer, quand on ne sait pas ce pourquoi finalement notre raison d'être, on peut tenter des choses sans forcément tout plaquer dans un mode « allez, je vais tout balancer et je vais partir en croisade ». Non, pas du tout. Je vais lancer des petites choses dans mes passions et je vais voir ce qui mord aussi à l'hameçon. Et ça, c'est important, tu le rappelles.
Essentiel. Essentiel de ne pas attendre... De nouveau, le grand projet. Alors, tu as deux choses sur les petits projets. C'est, d'un côté, les petits projets vont t'apporter des petits plaisirs. Mais qu'est-ce que c'est important, des petits plaisirs? Tu ne peux pas uniquement attendre un voyage de noces. Tu ne peux pas forcément attendre une promotion. Tu ne peux pas forcément attendre une Coupe du Monde tous les 4 ans, si tu aimes le sport. Ce n'est pas possible. Être heureux, être épanoui, à trouver ce bonheur-là, tu vois, il faut arriver à le... C'est une machine, en fait. C'est une machine pour avoir ces petits moments. Donc moi, comme toi, j'aime ces petits projets. Et j'en ai plein de petits projets. Quasiment tous les jours, j'ai mon petit projet. Ça peut être acheter un dessert. Je disais tout à l'heure, mon vice du sucre. Un dessert qui va me faire plaisir. Ça pourrait être dîner avec mon épouse, déjeuner avec un de mes enfants. C'est des tout petites choses. Regarder un match avec un de mes meilleurs amis. C'est des choses qui...
Un concert de Ben Mazuet, forcément.
Ah oui, Ben Mazuet, ça, j'ai... Ben Mazuet, son dernier, je crois que son dernier concert, j'aime beaucoup d'ailleurs, tous ces gens-là sont évidents dans le podcast, mais j'aime bien, j'aime beaucoup Ben. Et Ben a un petit groupe avec Grand Corps Malade, Gaël Faye, enfin,
oui.
Ils sont un petit groupe qui sont extrêmement talentueux. Mais c'est vrai, en effet, je prends l'exemple de Ben Mazuet, moi, quand j'aime quelque chose, j'aime vraiment bien et j'apprécie ce chanteur et ce chanteur à texte. Donc, je suis allé assez souvent voir ses concerts, mais chaque fois que je suis allé voir ses concerts, ça me faisait plaisir, tu vois, c'était pas... C'est vrai, et ça, c'est des petites choses. C'est pas, ça me coûtait pas, tu peux imaginer, très cher. 50 euros, 40 euros, un concert aujourd'hui, c'est la journée, même la veille, tu disais, tiens, ça, c'est sympa. Et c'est ça qui est important, c'est le bonheur, moi, je le dis, est au coin de la rue. N'attends pas qu'il soit très, très loin, en fait. Il est juste là. Mais il faut arriver à la... aussi, à l'attraper.
Un petit exercice, par exemple, tout simple que tu proposes, et moi j'adore ce genre d'exercice parce que c'est concret. On arrive chez le boulanger, on rentre chez un commerçant, et je voulais te la poser d'ailleurs en introduction de ce podcast, j'ai oublié, c'est le « comment ça va ?». Et on apprécie la réaction, tu dis. Donc ça, c'est ton exercice 5. Si tu es d'accord, peut-être qu'on partagera sur nos réseaux sociaux quelques exercices que tu proposes à la fin, évidemment pas tous, parce qu'on veut laisser la surprise aussi du livre. Mais je trouve qu'il y en a comme ça, c'est comment ça va aujourd'hui, ouais. Vraiment. Et de le dire avec une vraie intention, c'est pas juste parce que les Américains disent ça tout le temps.
Ouais, bien sûr.
Hein, ils n'écoutent pas la réponse.
Non, et c'est l'intention, d'ailleurs, et c'est un exercice que je vous propose à toutes et à tous de faire. C'est évidemment que nous sommes toutes et tous polis, donc on dit bonjour.
Ça va.
Et c'est pas ça va, c'est comment ça va. Et en fait, vous allez voir, moi je le vois quasiment à chaque fois, la personne a l'habitude de bonjour, bonjour, donc il regarde ailleurs, il baisse les yeux, il fait autre chose. Et quand tu lui dis comment ça va, il te regarde deux fois, il dit mais c'est pas possible, j'ai pas bien entendu. Et parfois je me pose la question, mais pourquoi tu m'as regardé comme ça? Et alors moi je tutoie aussi, donc je fais vraiment les choses très mal. Hein. Moi je tutoie derrière, et les gens me disent souvent, mais ils me disent, mais de la journée, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Je suis là, derrière la caisse, et ça m'arrive pas qu'on pose la question. Ça m'intéresse pas qu'on s'intéresse à moi, en fait. Je suis là pour vendre un journal, une baguette. Et c'est vrai que c'est là où je te remercie de nouveau. C'est l'intentionnalité qui va être importante. C'est pas à l'américaine, ça va, et tu t'intéresses pas à la réponse. Mais faites ça avec un chauffeur de taxi. Parfois, c'est pas évident, un chauffeur de taxi. Ils sont pas toujours évidents. Mais, en fait, tout de suite, vous allez enclencher quelque chose. Et oui, c'est des toutes petites choses. Hein. Mais de nouveau... Si nous attendons toujours que ce soit les autres qui fassent, si nous attendons tout de suite que ce monde soit meilleur, en attendant que d'autres personnes que nous le fassent devenir meilleur, ça ne changera jamais. Ça, c'est une évolution majeure entre aujourd'hui et hier. Aujourd'hui, nous sommes des acteurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que tout le monde soit des soldats, pas du tout. Mais nous sommes tous des acteurs, nous sommes tous des citoyennes et des citoyens qui ne pouvons plus accepter ce que nous avons accepté pendant des années. Et c'est ça l'alignement. On ne peut pas continuer à dire, ben, et des choses très concrètes. Tu sais, ce chapitre où je parle de cette conférence que je donne pour former la conférence de l'OCDE, où je parle de Apple, et c'est un sujet que j'aborde assez facilement. Est-ce que nous considérons normal, dans le monde dans lequel nous vivons, avec autant de difficultés financières, avec des États qui souffrent, que des entreprises puissent continuer à ne pas payer d'impôts sur les territoires sur lesquels ils travaillent? Ben, moi, je pense que ça ne devrait pas exister. Et ben, je pense que beaucoup de gens, quand je pose la question, pensent la même chose. Je vous rappelle juste, pour ceux qui nous écoutent, que Apple fait 100 milliards de dollars de profit par an. Hein. Tu me rappelles, Anne, le dernier moment, on dit qu'on est en train de trouver, pour trouver 10 à 20 milliards d'économies, et on voit qu'on est en train de mettre plein de choses de côté. Je parle de 100 milliards de profits par an.
Oui, oui, là, on se lance dans tout un autre chapitre.
Oui, oui, tu as raison. Mais mon point, c'est que l'alignement, il est au quotidien. Il n'est pas uniquement dans ce qu'on fait par rapport à nous-mêmes, mais aussi l'image qu'on va donner aussi par rapport aux autres. Et cet alignement, c'est nos actes. Et nos actes, ils doivent être en phase avec nos valeurs. Et pour moi, tout ça est un grand tout. Donc, en effet, le fait de savoir que nous avons la possibilité de faire changer les choses peut nous permettre aussi d'être plus alignés.
Merci infiniment. En tout cas, j'avais presque envie de dire « Mère Teresa, sort de ce corps », parce que quand on t'entend, Alexandre Mars, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la vocation. qui t'habite. Et c'est aussi bon d'entendre ça parce que c'est inspirant pour les autres. Et donc, je rappelle que si l'on assumait notre singularité, parce que toi, tu assumes maintenant, comme tu viens très bien de le dire, la tienne, au point d'en faire une force, nous permettant de devenir non pas la meilleure version, mais tout simplement nous-mêmes, finalement, peut-être qu'on pourrait changer le monde comme ça par petits bouts. Je rappelle le titre de ton ouvrage, « Pause pour une vie alignée », qui est publié aux éditions Fayard. À découvrir également ton podcast éponyme, avec des codes-barres qui renvoient sur ces interviews de personnalités extraordinaires. Merci infiniment. Je sais qu'on pourrait discuter des heures. Et peut-être vous nous avez suivis, vous qui nous écoutez jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous faire vos retours personnels sur votre mission de vie, sur votre raison d'être, sur vos croyances, sur votre façon d'être au monde. Ça nous intéresse, ça intéresse les autres de partager. Et c'est comme ça qu'on peut aussi co-construire un monde meilleur. Merci beaucoup, Alexandre.
Merci à toi, Anne. Merci pour ce moment, cette pause. Et c'est vrai que tu parlais de mon podcast où j'ai ta place toutes les semaines et j'interview des gens. Et c'est un moment unique d'avoir fait ça avec toi. Donc, je te remercie de m'avoir invité. Et encore une fois, merci pour ce que tu fais. Et merci aux auditrices, aux auditeurs qui écoutent et qui, je suis sûr, apprennent chaque fois avec toi beaucoup. Donc merci à toi et à toutes tes auditrices et tous tes auditeurs.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Alors les amis, avez-vous jamais pris un moment pour réfléchir à votre chemin de métamorphose ? Pour vous aider, nous avons créé un test exclusif et gratuit qui a déjà séduit plus de 25 000 personnes, la roue métamorphose. En 39 questions, explorez les piliers essentiels de votre vie : amour, spiritualité, famille, abondance, psychologie, santé et bien-être, pour n'en nommer que quelques-uns. En moins de 10 minutes, engagez-vous dans ce voyage introspectif et recevez à l'issue un rapport détaillé sur votre propre métamorphose, accompagné d'une sélection personnalisée de podcasts. Pour accéder à ce test totalement gratuit, rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com.